Colibri.
Nouvelle émission littéraire sur les 3-8. Bonjour et bienvenue dans Colibri, l'émission littéraire batracienne où l'oiseau polygame met son appétit au service de votre esprit. Et oui, pour son numéro 4, le volatile sybarite se niche dans un bosquet et vous initie à la littérature érotique. On appelle traditionnellement l'enfer les rayons des bibliothèques et des librairies où sont rangés les ouvrages réputés contraires aux bonnes mœurs. Loin d'atténuer la curiosité, cette expression a fait l'objet d'un livre, « Les livres de l'enfer » par Pascal Pia, publié en 1998 chez Fayard. Résultat de 60 années de vagabondage en enfer, cet ouvrage recense plus de 3000 titres de littérature érotique, publiés entre le XVIe siècle et aujourd'hui. Pour vous donner une petite idée, ça va de « À la campagne ou comment employer agréablement les loisirs de la vie de château » à « Vénus en rut ou la vie d'une célèbre libertine », en passant par le « Godemichet royal », publié en 1789, un bel hommage à notre Révolution française. Au cœur de la censure, à l'acmé de notre intimité et entre les mains de lecteurs de plus en plus nombreux, la littérature érotique fascine autant qu'elle inquiète et interroge. Voilà pourquoi auteurs impudents et récits impudiques sont dans le numéro 4 de Colibri. Au sommaire de l'émission, un décryptage galant en compagnie de Frank Spengler des éditions Blanches à Paris et de Nourdine, libraire à la FNAC Marseille. Un zoom licencieux sur la bande dessinée érotique par Peggy de la Réserve à Bulles. Et un coup de cœur en forme de triptyque initiatique préparé par mes soins. Colibri numéro 4, la littérature érotique, c'est parti.
Colibri, décryptage.
On commence par le décryptage de ce qui peut se cacher derrière cette formule énigmatique, une formule vide de sens selon Jean-Jacques Pauvert, la littérature érotique. Pour nous aider, j'accueille en studio Nourdine, libraire en charge du rayon érotique à la FNAC Marseille. Bonjour Nourdine.
Bonjour Ariane.
Et au téléphone, j'accueille Frank Spengler des éditions Blanches à Paris. Bonjour Frank.
Bonjour.
Merci à tous les deux de nous accorder un peu de votre temps et surtout de vos connaissances. J'ai envie de commencer avec vous, Frank Spengler. Vous êtes le fondateur et le directeur des éditions Blanches à Paris,
ouais,
qui existe et publie exclusivement la littérature érotique depuis une dizaine d'années.
Ouais.
Vous êtes aussi le fils de Régine Desforges, qui a été déchue de ses droits civiques, je crois, en 1974,
ouais,
pour avoir écrit un livre érotique.
Pour avoir publié
un livre érotique. Et vous êtes le beau-fils de Jean-Jacques Pauvert, grand éditeur et spécialiste de littérature érotique et pornographique. Bref, je pense que vous êtes la personne capable de nous éclairer, nous, novices dans le genre. Et pour commencer, je vais vous poser une question toute simple. Qu'est-ce que c'est que la littérature érotique ?
Pour moi, la littérature érotique, c'est celle qui prend comme centre narratif le corps, le désir, l'acte sexuel. Voilà, c'est en ça qu'elle se résume. Alors après, tout ce qu'on peut dire, est-ce qu'elle est plutôt tendre et ce serait de l'érotisme, est-ce qu'elle est plutôt crue et ce serait de la pornographie ? Ça, ce sont des clivages que je trouve pas en tant que tel. Voilà, je dirais, c'est l'éclairage central sur un fait de sexualité ou des faits de sexualité.
D'accord. Donc la distinction avec la littérature pornographique, pour vous, c'est qu'une question de vocabulaire, presque.
C'est une question de vocabulaire et surtout un peu aussi une question de sémantique, c'est-à-dire quand on affuble la littérature de l'adjectif pornographique, on a pour volonté surtout de la dévaloriser. C'est ce qu'on reprochait à Flaubert pour Madame Bovary, que l'on qualifiait de roman pornographique, ce qui est d'ailleurs un non-sens, puisque le roman pornographique, ce sont tous les écrits de la fin du siècle dernier, fin du 19e, qui étaient en fait des livres consacrés à la prostitution.
Ah oui.
Hein, ça vient du grec pornos, qui est prostitué, graphie, écriture sur les prostituées. Donc ça a au départ désigné ces livres qui, sous couvert de présenter la prostitution à travers des rapports, des études et tout, permettait comme ça de soumettre, sans passer sous les fourches codines de la censure, des textes licencieux.
D'accord, mais donc à la base, étymologiquement, la littérature pornographique est extrêmement ciblée donc.
Ah oui, c'était une littérature très très typée, qui était là, tout ce qui concernait les écrits sur la prostitution.
Très bien.
Et c'est devenu ensuite, quasiment une injure quand on parle de discours pornographique, quand on parle de pornographie mémorielle, donc c'est un mot qui ensuite est un adjectif qui est devenu quelque chose de déqualifiant. Hein.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment a évolué la littérature érotique à travers les siècles et les sociétés ? Quel rôle joue ce type de littérature dans les sociétés ?
Je pense qu'elle a déjà un rôle de décrire la vie des hommes. Hein. C'est avant tout en décrivant l'amour, vous décrivez ce que sont les hommes d'une époque. Ce qui est quand même intéressant, c'est que les plus vieux textes retrouvés, les textes sumériens, notamment l'épopée de Gilgamesh, donnent une large part à tout le fait érotique. C'est-à-dire, dès que l'écriture a pu communiquer sur les hommes, ils n'ont pas pu exclure ce qui était pour eux important, qui était l'acte charnel, que ce soit à des fins de reproduction ou à des fins de plaisir, ou les deux, ça les a intéressés. Donc ce qui a muté, c'est que la littérature érotique a d'abord été une littérature, on va dire, d'essence, se donner du plaisir et donner à connaître ce qu'était l'amour dans une époque. Puis après, sa fonction est devenue plutôt une fonction d'excitation de ses lecteurs, et ça commence, on va dire, dès le 18e, et ça s'amplifie au 19e et jusqu'à nos jours, où il y a une vraie volonté, à travers un récit érotique, de procurer un trouble et un émoi à son lecteur. Alors avec des moments forts qui ont été tous les romans d'initiation, c'est-à-dire la vie de jeune fille, la vie de jeune garçon, qui découvrent leur sexualité, qui la peaufinent. Ça, c'est par exemple Ma vie secrète, un texte sublime du 19e. C'est l'épopée d'un jeune donjon d'Apollinaire. Enfin voilà, donc vraiment l'exploration et la découverte de sa sexualité chez les jeunes garçons ou chez les jeunes filles. Il y a eu aussi une période de la littérature érotique comme moyen de combattre la société dans laquelle on s'inscrivait. Ça, c'était par exemple Oscar Wilde avec Téléni qui critique la société victorienne à travers des récits érotiques. Et là, la provocation devient un des moyens de dire merde à la société qu'on ne nie. Et puis alors après arrive le 20e siècle où là la fonction, on va dire, d'excitation que procure cette littérature est mise en avant avec des gens aussi bien comme Macorlan, Breton, Mandiargue et d'autres.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que la littérature érotique est quand même un bon reflet de la société. À travers l'essai, comme vous dites, on passe de l'initiation à l'excitation. C'est assez symptomatique de l'évolution des sociétés.
Oui, absolument. Une société, par exemple, qui est de plus en plus voyeuriste dans le fait sexuel. C'est-à-dire que la plupart maintenant des romans publiés depuis, on va dire, une vingtaine d'années, on pourrait les qualifier de romans de l'exhibition, oui, absolument. Alors que effectivement, dans les romans précédents, on était plutôt dans la narration plus ou moins joviale du fait de sexualité qui servait surtout à pimenter la lecture et à pimenter les rapports des hommes ou des femmes qui les lisaient. Oui.
Et la censure, est-ce qu'aujourd'hui on censure encore? Parce que je sais que c'est quelque chose qui a marqué définitivement la littérature érotique, puisque là j'ai ouvert l'émission en parlant du livre de Pascal Piat, Les Livres de l'Enfer.
Oui, absolument. La censure, même si elle est moins effectivement présente, existe toujours, puisque tous les textes qui permettent l'interdiction d'un livre sont toujours existants. Donc il suffirait d'une volonté politique ou d'une volonté, on va dire, d'ordre moral pour que les choses puissent devenir plus difficiles. Non, ce qui a un petit peu changé en la matière, c'est que d'une part, on assiste à de l'autocensure de la part à la fois des auteurs et des éditeurs, voire des libraires qui des fois choisissent de ne pas mettre tel ou tel livre en avant parce qu'ils veulent pas provoquer éventuellement des soucis dans leur librairie. Et puis, mais il y a encore des censures. Le livre de Nicolas Genka, par exemple, ou le livre Rose Bonbon, qui est passé à deux doigts de l'interdiction, ou Baise-moi, qui a été un peu aussi limite quand il est sorti. Bon, alors, effectivement, ils n'ont pas été interdits. Mais je pense que la censure, maintenant, est plus insidieuse qu'elle l'était du temps, par exemple, de ma mère, où là, effectivement, c'était les pouvoirs publics qui disaient « Bah non, ce livre-là, vous n'avez pas le droit de le mettre en vente. » Il est interdit à l'affichage, interdit aux moins de 18 ans, interdit à toute forme de publicité, donc interdit tout court d'ailleurs souvent. Maintenant, c'est une censure qui passe par voie de médias, par voie d'opprobre, par voie de...
Oui, c'est plus subtil.
Par libraire interposé. Oui, c'est plus... À la limite, on est plus dans une censure du regard des autres. Voilà. Et celle-là est plus insidieuse parce que vous n'avez pas d'adversaire vraiment en face de vous. Quand vous avez un livre qui est interdit par le ministère de l'Intérieur, on savait contre qui se retourner. Ou du moins contre qui on pouvait... on pouvait jeter sa haine. Maintenant, c'est très difficile.
Oui, ça, je pense qu'on va en parler avec. Je suis avec un libraire.
Oui, de la
Nourdine,
FNAC, que
voilà.
Salue, ouais.
Et donc, je pense qu'on va parler justement de l'acte d'acheter un rayon, un livre de littérature érotique. Parce que moi, je suis allée dans plusieurs librairies de Marseille.
Ouais.
Et bah, dis donc, les rayons de littérature érotique ne sont pas faciles à dénicher comme ça dans les petites librairies de quartier. Et on m'a dit que ça serait peut-être parce que les gens n'osaient pas aller chez leur libraire habituel pour
bah,
acheter ce genre
de... Il y a effectivement affronter le regard de la caissière, qui souvent d'ailleurs, elle ne s'intéresse pas tellement à ce que vous lisez, elle n'est pas là pour ça, et puis elle n'est surtout pas là pour vous juger. Mais c'est cette peur qu'on a. La preuve en est, c'est que les meilleures ventes sur Amazon, parce que je travaille beaucoup avec Amazon, se font justement sur les gammes érotiques où les gens se sentent complètement
en toute
anonymes
liberté,
dans leur achat.
D'accord.
Et la vente par correspondance aussi, quand par exemple France Loisirs, le club de vente par correspondance, met des textes érotiques à son catalogue, ils font des scores à faire pâlir n'importe quel éditeur.
Ah oui, d'accord, donc c'est quand même un genre qui
ah
plaît
oui,
largement,
non,
mais qui n'est pas toujours
Ça reste
accessible.
Toujours une littérature un petit peu que l'on a tendance un peu à moquer, quand c'est pas à mépriser, qu'on se tape du coude, mais voilà une littérature qu'on se prête beaucoup.
D'accord. Ouais, d'accord. Il y a des circuits de.
Non, mais il y a aussi cette anecdote des journalistes littéraires qui parlent très très peu de cette littérature pour plein de raisons, mais qui en revanche, dès que les livres arrivent, comme ils me disent tous, c'est les premiers qui partent. Ils me disent, on les recense pas, mais on les lit.
Oui, d'accord.
Voilà.
Et vos éditions blanches, j'ai vu dans votre catalogue que vous publiez beaucoup de littérature érotique féminine. Est-ce qu'il y a une différence entre une plume masculine et une plume féminine?
Il y a encore quelques temps, je disais oui, c'était très net, parce qu'il y avait vraiment une volonté chez la femme d'inscrire le sexuel, on va dire, dans un ensemble romanesque cohérent.
Mm-hmm.
C'est-à-dire c'était une femme qui, à l'occasion d'une rupture, revisitait sa vie amoureuse et puis décidait de passer à toute autre chose, et là découvrait des sensations, des univers qui la fascinaient ou au contraire qui la repoussaient. Mais enfin voilà, on était inscrit dans une histoire et le sexuel s'intégrait à des histoires de vie. Alors que chez les hommes, c'était plutôt le sexuel comme centre, un peu comme le gros plan en cinéma pornographique, où on ne s'intéressait qu'à l'acte sexuel en tant que tel, et puis qu'à la limite, tout le décor autour était, et surtout les conséquences de la sexualité étaient beaucoup moins intéressantes du point de vue de l'écrivain. Ça a un peu changé depuis quelques années, c'est-à-dire que les femmes en viennent à des sexualités plus brutales, entre guillemets, c'est-à-dire où je dirais on rentre plus directement dans le fait sexuel, parce que quelque part c'est là-dessus aussi qu'elles veulent, je pense, exprimer quelque chose. Alors ça n'exclut pas que la différence, c'est que c'est souvent, ça tombe moins comme un cheveu sur la soupe.
D'accord, il y a un souci de cohérence et de...
Oui, voilà, c'est-à-dire que dans un roman de bonhomme, par exemple, c'est l'autostoppeuse en mini-jupe, en bas et porte-jartel, avec guépière et tout. Moi, j'ai fait des milliers de kilomètres en autostop, ça m'est jamais arrivé, et qui tout d'un coup se prend en autostop un type formidable, qui a des érections formidables, qui va lui faire l'amour pendant tout le trajet. Donc, ça peut marcher d'un point de vue de l'excitation, parce que si c'est bien mené, ça peut le faire, mais d'un point de vue de la cohérence, ça ne marche pas très bien.
Oui,
alors qu'un auteur comme Françoise Rey, bon, elle, par exemple, dans La femme de papier, c'est l'histoire d'une femme dont le désir pour son homme, enfin, réciproquement, s'étiole, et pour le reconquérir, va s'inventer un personnage, donc une femme de papier, qui va écrire des petits scénarios à destination de la reconquête du désir de son homme.
Ah oui, donc c'est
ouais,
quand même.
Alors, effectivement, les scénarios qu'elle propose sont éminemment sexuels et fonctionnent de ce fait très bien. Mais je veux dire, on est inscrit dans quelque chose dans lequel on peut se projeter. C'est vrai que la littérature, ce qui est peut-être moins vrai maintenant, mais la littérature masculine jusqu'à quelques temps, elle excitait profondément, mais on avait toujours un peu de mal à se projeter dedans, quoi. Celle des femmes, on peut être vraiment dedans, quoi.
Très bien. Pour finir, vous voulez bien nous donner quelques titres incontournables, selon vous, de la littérature érotique?
Pour moi, il y a Trois filles de leur mère de Pierre Louis. Ça, c'est incontournable. Il y a bien évidemment les 11 000 vers d'Apollinaire,
ouais,
incontournable. Il y a l'anglais décrit dans le Château fermé de Mandiar, qui est pour moi un texte cathédral. Et puis pour un érotisme un peu, on va dire, un peu féminin, contemporain, ouais, je citerai un Françoise Rey, qui serait, je sais pas, La femme de papier ou Nuit d'encre, par exemple.
D'accord. C'est vous qui l'éditez, Françoise Rey?
C'est moi qui l'avais édité, effectivement, qui avait édité, mais j'ai pas édité tout Françoise Rey, mais ceux-là, c'est moi qui les ai édités.
Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup, Franz Spengler.
Bonne journée.
Merci, au revoir. Je rappelle que les éditions Blanches sont à Paris dans le 17e. Vous pouvez les contacter par mail à l'adresse suivante editions@blanches.netcourrier.com. On fait une petite pause musicale en compagnie de Monette Solder. On écoute G-String, extrait de Meeting of the Spirits. Et on se retrouve juste après pour parler des ventes et des lecteurs de littérature érotique en compagnie de Nourdine. A tout de suite.
G-string vibrating 440 times a second. You sang while I snapped, slapped, and plucked melodies of love, strumming slow rhythms of funky jazz. You wrapped your arms around me, fingers dancing over every anatomy. E to A, your doo-wop needing me to stay. I bebop back to the top. Then I took Dakota. Soft lips sing a new melody. Alifane. Lingering fermata. Half moon canopy over one dot. G-string vibrating 440 times a second. You sang while I snapped, slapped, and plucked melodies, strumming slow rhythms of funky jazz. You wrapped your arms around me, fingers dancing over every anatomy. E to A, your doo-wop needing me to stay.
De Colibri sur Radio Grenouille et le Volatile vous initie aujourd'hui en douceur à la littérature érotique. Je suis en compagnie de Nourdine qui est libraire à la FNAC Marseille en charge notamment du rayon érotique. Rebonjour Nourdine.
Rebonjour.
Alors, est-ce que vous voulez réagir sur l'interview que nous a accordé Frank Spengler ? Peut-être que vous avez des choses à rajouter pour compléter son point de vue ?
Oui, non, effectivement, sur l'analyse historique de la littérature érotique en France et de ce qu'elle a pu être et de son développement, j'ai précisément rien à rajouter. Par contre, là, je voudrais revenir, c'est concernant la censure. Aujourd'hui, c'est vrai que bon, les livres sont pas censurés. Hein. Moi, je vois ça avec les représentants qui viennent me présenter donc les ouvrages en nouveauté de littérature érotique. Il y a plusieurs éditeurs. Hein. On n'a jamais eu effectivement d'exemple concret où on nous disait bon là on travaille le livre mais bon on pense qu'il pourra pas sortir parce que pour des raisons de moralité ou effectivement de politiquement correct entre guillemets ça va effectivement poser problème. Non, en fait les livres paraissent en général hein, sauf si l'éditeur dès le départ décide de pas le travailler. En ce moment-là on n'en a pas la connaissance donc c'est difficile d'avoir une idée sur ce qu'il peut sortir ou ne pas sortir à cause des raisons de censure. Et c'est, effectivement, c'est pas les autorités en place aujourd'hui qui s'attaquent à la littérature érotique. Les livres paraissent et les associations interviennent, en fait. Voilà. C'est là où, effectivement...
Les associations, c'est-à-dire...
Les associations de défense de la famille. Je crois qu'il y a l'Enfant Bleu à Bordeaux, hein, ça ne veut pas dire de bêtises, qui est une association, effectivement, qui est pour la défense de l'enfant et de tout ce à quoi il pourrait être exposé. Mmh. Même si, bon, on a du mal à croire qu'aujourd'hui, les enfants puissent être amenés à lire de la littérature érotique. Et elles interviennent, en fait, à préparution et elles interpellent, effectivement, les autorités... concernés pour essayer de faire interdire certains livres, et notamment effectivement Rose Bonbon, qui est sorti il y a 5-6 ans, il me semble, chez Gallimard quand même. Donc il a eu un comité de lecture, ce livre-là a eu l'approbation de son éditeur, il est paru. Ensuite, une association, je crois que c'est toujours l'Enfant Bleu à Bordeaux, hein, c'est quand même à confirmer, hein, qui est intervenue, qui a saisi la justice pour faire interdire ce livre sous prétexte d'apologie de la pédophilie. Et... moi, le texte, je l'ai lu. Effectivement, bon, c'est une œuvre littéraire. Donc, moi, je pars du principe que dans la littérature, on peut tout dire. Hein, donc, c'est le propos de la littérature, de son essence même. Il n'y a pas de sujet tabou en littérature. Hein, ce ne sont pas des manuels de civilité, la littérature. Hein, bien au contraire. Et à partir de là, Gallimard, bon, sous pression, effectivement, des associations-là, et je crois qu'il y avait une décision justice. Donc, Gallimard a ressorti le livre sous plastique avec un avertissement, précisant que ça restait quand même une œuvre de fiction et qu'il n'était en aucun cas fait dans ce texte une apologie quelconque de la pédophilie. Hein.
Mais ils ont mis l'avertissement. Donc, il y a eu un compromis qui a été trouvé entre la censure définitive et puis le. D'accord.
Oui, il y a eu un autre livre aussi de Louis Korucki qui était paru chez Léocher, où pareil, il y avait des scènes de nécrophilie, des scènes très violentes. Où est là, pareil, une association, bon, je ne voudrais pas la citer, mais qui aussi s'est attaquée à ce livre-là pour le faire interdire. Bon, ils n'ont pas eu gain de cause, hein, le livre est paru, et voilà, c'était pour revenir sur ce que disait Frank Spengler. Effectivement, ce ne sont pas les autorités en place aujourd'hui qui s'attaquent à la littérature érotique, ce sont les associations.
Ok, concernant votre expérience de libraire, on va peut-être revenir un petit peu dessus, pour peut-être vous pouvez nous éclairer sur votre point de vue de vendeur. D'abord, est-ce que la littérature érotique, ça se vend bien ?
Oui, si elle est bien exposée. En fait, la littérature érotique, c'est vrai que ça reste, enfin, en soi, pas un genre mineur. Hein, ça voudrait dire qu'on porte un jugement esthétique, je n'ai pas envie de le faire. Et d'un point de vue commercial, la littérature érotique se vend que si elle est montrée. Donc effectivement, si elle est mise derrière une table, dessous, bien cachée, elle aura beaucoup du mal à s'exposer. Moi, ce n'est pas mon cas. À la Fnac de Marseille, je l'expose. Et bon, les chiffres sont là, hein, même si ça reste quand même des chiffres... ils ne sont pas excessifs non plus. Hein. Bon, je ne vais pas les communiquer, mais... C'est quand même un pourcentage relativement faible. Hein. Mais c'est vrai qu'à la Fnac de Marseille, je pense qu'effectivement, la littérature érotique, c'est pas du tout quelque chose qui est vécu honteusement, et caché, et pas du tout exploité. Bien au contraire.
D'accord. Donc, en tout cas, le principe est de montrer le livre pour qu'il puisse se vendre. Sinon, comme nous disait Frank Spengler, il doit quand même y avoir des ventes importantes sur Internet.
Oui, certainement qu'il y a des ventes sur Internet, mais je pense que les ventes sur Internet se font à partir du moment où il n'y a pas une librairie de proximité qui expose la littérature érotique, où il n'y a pas de jeunes à aller l'acheter. C'est vrai qu'à la FNAC, il n'y a pas le regard qui peut juger la personne qui va acheter la littérature érotique. Moi, globalement, la clientèle qui achète la littérature, je la vois de loin. C'est vrai qu'on ne demande jamais de conseils sur la littérature érotique.
La littérature érotique, excusez-moi. On ne vous en demande pas ?
Non, jamais. Non, ça arrive rarement. Parce qu'évidemment, je pense que c'est un rapport très intime, hein, en fait. Hein. Mm. C'est lié à tellement de choses, la littérature érotique. Ça peut être un objet d'excitation, un objet de frustration par rapport à une vie sexuelle qu'on n'aurait pas, ou une vie qu'on n'a pas envie d'assumer. Par exemple, la littérature homosexuelle, si on ne l'est pas complètement, on peut vivre sa non-homosexualité à travers la littérature érotique. Et c'est vrai que c'est difficile de demander à un libraire un conseil en littérature érotique, parce que...
Alors, ouais, c'est très très intime.
La libido de chacun est ce qu'elle est, elle est vraiment intime et individuelle. Donc là, c'est vrai qu'on n'intervient pas, mais il n'y a pas le regard. Donc du coup, que ce soit vers les libraires ou le passage en caisse, c'est vrai qu'à la FNAC, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Hein. Moi, je n'ai jamais vu. Bon, ça peut arriver, mais bon, les gens, quand je vois ce qu'ils achètent en littérature érotique, et même pour parler dans notre rayon, la photo, hein, on voit aussi des photos de nus, enfin de photographes qui sont spécialisés dans ce domaine, notamment dans les éditions de ta chaîne. Au contraire, on a même mis des livres en tête de gondole, les livres de Roy Stewart qui font assez cru, qui mettent assez en scène les femmes, mm-hmm. de manière très explicite. Il n'y a aucune honte à acheter ça à la FNAC.
D'accord. Là, vous êtes venu avec quelques livres. Bon, c'est pas très radiophonique.
Bah ouais, ça va être difficile.
L'auditeur va pas pouvoir les voir,
mais visuel à la radio.
On va essayer de les décrire un peu. L'idée est plutôt d'essayer de comprendre les différents produits qui composent la littérature érotique, parce que c'est assez dense. Moi, j'ai été assez surprise. Je ne connaissais pas le sujet. Et en m'y attaquant, j'ai vu qu'il y a des profils de produits très très différents et on le retrouve notamment sur les visuels. Alors est-ce que vous pouvez nous faire, je ne sais pas ce que vous avez... Vous avez pris différents éditeurs, différents types.
Avant d'entrer dans le détail effectivement des couvertures, moi le but que j'ai en fait sur le rayon de littérature érotique, c'est de proposer un choix quand même assez relativement varié qui s'adresse à plusieurs catégories de lecteurs en fait. Hein. Donc, je peux m'adresser effectivement autant à une littérature dite masculine, avec effectivement des couvertures très explicites, qui vont tout de suite éveiller l'attention visuelle, hein, on va dire, donc, et qui sont principalement leur raison d'être. Hein. Donc, si les éditeurs choisissent ces couvertures-là, c'est forcément pour attirer un regard en général masculin pour ces couvertures dites plus explicites.
Et ça serait les romans d'excitation dont parlait Frank Spengler.
Absolument, ouais. Notamment les éditions de la Musardine qui joue effectivement en grande partie cette carte-là. Les éditions blanches, beaucoup moins. C'est vrai que c'est un peu plus soft, c'est un peu plus pas branché, mais on joue plus sur l'esthétisation d'une certaine idée de la littérature érotique via certaines pratiques comme le sadomasochisme et tout. Mais bon, on va pas forcément mettre...
Le fouet et...
Ouais. Ils le font aussi, mais de manière un peu plus arty. Et les éditions La Musardine, un peu moins.
Bon, quand on voit, et Sparbeck, voilà. C'est à La Musardine là,
Sparbeck, notamment, c'est à La Musardine. Et bon, Sparbeck, c'est la littérature pornographique bourgeoise, en fait. Hein. Il véhicule tout, il reprend tous les bons vieux clichés de la bourgeoise dévergondée.
D'où la couverture avec les portes jartelles et la dentelle et tout ça.
Absolument.
C'est vrai que ça fait très cliché. Hein.
Oui, ça fait très cliché, mais en même temps, bon, il y a une dimension tout de suite... L'hôtel, effectivement, où on se retrouve pour vivre des fantasmes qu'on ne peut pas forcément vivre dans son domicile conjugal. Là, c'est très flagrant. Hein. Donc, on imagine la femme qu'on peut retrouver à l'hôtel, en fait. Hein, parce que la photo est tirée d'un livre qui s'appelle Hôtel Fétiche. Donc, voilà, on peut imaginer tous les fantasmes que ça peut projeter. Hein, où les hommes sont censés retrouver leur maîtresse pour essayer de vivre une sexualité qu'ils n'ont pas forcément avec leur compagne officielle ou leur épouse. Et dans ces couvertures-là, on retrouve complètement cette femme sublimée, fantasmée, qu'on peut retrouver comme ça, de 5 à 7, comme on dit.
Et donc ça, c'est les hommes qui vous achètent, non? Enfin, oui. Je ne sais pas, j'imagine.
Oui. Sparbeck, je crois que c'est 95%. Je n'ai pas fait de sondage, hein, mais c'est à 95% des hommes qui achètent cette littérature-là. Ouais. Ça s'adresse vraiment à ces hommes. Je reviens à ce que disait Frank Spengler. Les femmes sont... Enfin, même si ça tend, effectivement, aujourd'hui à se réduire, les femmes, elles sont quand même dans une dimension narrative de l'érotisme. Je vois rarement, enfin, je suis pas à épier les lecteurs de littérature érotique à la FNAC, mais je vois rarement des femmes acheter des textes explicitement pornographiques.
D'accord.
Je veux pas caricaturer. Hein.
Vous avez là parmi ce que vous apportez des textes qui sont achetés par les femmes ?
Absolument. Plaisir de femme, par exemple.
Alors, c'est quoi?
Alors, ça sont des nouvelles. C'est publié par les éditions Pocket. Et là, on retrouve des choses beaucoup plus soft hein, au niveau de. Des couvertures déjà. Bon, c'est encore difficile d'en parler au niveau de la couverture.
Oui, c'est bien plus...
Mais bon, c'est pas des femmes qui sont complètement dénudées ou qui s'exposent aux fantasmes des hommes ou ce que les hommes pourraient attendre des femmes. Notamment, il n'y a pas de porte-jartelle. En général, c'est de la photo plutôt noir et blanc. Donc, il y a un effet artistique qui est mis en scène. Et c'est c'est effectivement une littérature érotique un peu évanescente, comme ça, un peu plus subtile, qui est, où on imagine une femme qui ne serait pas forcément une dominatrice sexuelle. Voilà. Elle n'est pas là pour effectivement assouvir les fantasmes les plus débridés des hommes. Là, je pense que c'est plutôt une littérature plutôt intuitive, un sentiment plutôt intuitif qui est exposé dans cette couverture-là.
Oui, d'accord. Mais c'est intéressant parce que du coup, on voit vraiment que la littérature érotique est... Enfin, que l'érotisme a un enjeu, c'est pas que pour exciter, c'est que les gens se livrent beaucoup, bon, et en écrivant, mais et en lisant, en fonction du livre qu'on choisit. Moi, à la fin de l'émission, j'ai présenté trois livres, et quand je suis arrivée, je vous les ai montrés, vous m'avez dit que c'était un choix typiquement féminin. Moi, j'avais fait un effort en me disant, je vais essayer de présenter quelque chose de complet. Mais finalement, en allant vers telle couverture, en allant vers tel roman, on se livre beaucoup. Et l'érotisme, la littérature érotique est là aussi pour mettre en évidence une intimité qu'on n'a pas l'habitude, enfin qu'on cherche plutôt à cacher. Donc c'est marrant.
Ah ben oui, c'est comme lors des fantasmes sexuels, hein. Personne n'en parle. Hein. C'est très difficile de parler de ces fantasmes sexuels. La littérature, c'est une manière aussi, c'est un exutoire aussi quelque part. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une manière de vivre une sexualité qu'on voudra avoir, qu'on fantasque, mais qui ne peut pas forcément se vivre, parce que la réalité des corps de chacun fait que les attentes ne sont pas les mêmes avec les personnes avec qui on peut vivre. Et c'est très difficile de vivre des choses qui sont présentes dans la littérature érotique. Donc c'est vrai que... Dis-moi ce que tu achètes comme littérature érotique, je te dirais que tu es, c'est vrai, hein, c'est vrai.
Oui,
hein.
Oui, c'est marrant.
Ah oui, quand on achète certains auteurs, bon après il y a l'achat d'impulsion, hein. Bon les femmes quand elles achètent effectivement certaines littératures érotiques comme ça pour s'émoustiller le soir, c'est pas la même chose qu'un homme qui va acheter un texte où il y a des pratiques sexuelles qui peuvent être vraiment très, très explicites. Bon les femmes peuvent le faire aussi, hein. Mais je pense que c'est pas pour les mêmes raisons, hein. Enfin, je pense que les hommes, s'ils le font, c'est parce que forcément, ils n'ont pas forcément la partenaire qui leur permettra de faire ça. Hein.
Et là, vous avez deux autres.
Oui, là, j'ai amené un texte
complètement différent au niveau du packaging. Hein.
Ouais, parce que la littérature érotique, c'est pas forcément une lecture pour se défouler. Hein. C'est aussi une littérature avec un texte, un style. C'est un vrai plaisir esthétique parfois. Hein. Là, j'ai amené un texte de littérature érotique arabe qui est quand même. Relativement avancé, hein. Littérature arabe érotique existait bien avant les textes qui sont cités dans le livre de Pascal Pien, La Bibliothèque de l'Enfer. Et c'est des textes qui remontent au 14, 15, 16e siècle, où là, c'est encore un lectorat. En général, c'est un lectorat cultivé.
Ah, d'accord.
Ouais, parce que là, ça développe vraiment un sens littéraire de l'objet. Hein. C'est pas du tout. On ne lit pas la littérature érotique arabe pour se dire, ouais, là, c'est bon, ça va correspondre à une certaine idée de l'érotique urbain. Voilà,
ouais,
c'est comme
d'accord.
ça que je l'appelle aujourd'hui, parce que bon, c'est comme ce qu'on vend. Et là, c'est vraiment le raffinement, l'esthétisme et le plaisir de lecture avant tout. Et on le voit dans la couverture. Hein. D'ailleurs, il y a une calligraphie, on reprend une peinture originale de l'art musulman, en fait. Hein. Enfin, l'art musulman, le arabo-musulman, parce que bon, désir de femme, forcément, ça ne correspondrait pas... avec l'idée qu'on peut se faire de cette religion-là aujourd'hui, mais...
C'est publié chez qui ? C'est de qui ? Vous pouvez le citer peut-être pour les...
Voilà, les éditions Phébus, Désir de femme, c'est Abdel Harim Al-Arwani, ce sont les éditions Phébus, qui sont tous, sauf un éditeur de littérature érotique, par contre très spécialisé dans le monde arabe. Et là, on est entre les deux, là. Donc là, c'est vraiment... Là, par contre, je crois qu'on rejoint plus le domaine de la littérature générale et dite classique. Voilà. Comme il peut en exister en littérature française aussi. Hein.
Voilà. D'ailleurs, il est intéressant de voir que beaucoup d'auteurs qui ont écrit par ailleurs plein de livres sur plein de thèmes différents se sont collés à la littérature érotique. Moi, j'ai été étonnée de lire que, bon, Georges Bataille, on le sait, mais il y en a plein d'autres qui ont, à un moment donné, exploré ce genre-là parce que, justement, ça touche à l'intime et il y a un vrai travail littéraire, artistique, comme vous disiez, c'est une écriture très, très stylisée et très, très artistique.
Oui, mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à mettre ces textes-là sur table avec la littérature érotique parce que, pour moi, c'est pas forcément leur dimension érotique qui va s'exprimer, qui va faire... que le texte est intéressant à lire. Là, je pense à
Georges Bataille, là, que vous avez apporté, vous le mettez sur votre table érotique ou pas ?
Oui, mais c'est commercial, hein, honnêtement.
C'est vrai ?
Ouais. Si ça tenait qu'à moi, je ne le mettrais pas sur la table littérature érotique, même si c'est un grand classique. Mais c'est vrai que Georges Bataille rejoint plutôt une idée de la littérature érotique que j'appelle lunaire, en fait. Hein. C'est un sexe morbide. C'est un sexe tourmenté. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a le sexe paillard, hein, qui est quand même en grande partie lu. Hein. C'est vraiment ça qu'on recherche. Hein. Et après, il y a des auteurs, effectivement, qui exploitent plus la dimension lunaire de la sexualité. Hein. Et Bataille en fait partie. Hein. Donc, On peut le mettre et pas le mettre. Mm-hmm. Mais je pensais à Louis Calaferte aussi avec cet Ontrion, qui est publié chez les éditions Folio. Je le mets, mais bon, enfin, je le mets aux deux endroits en fait. Mm. Mais bon, si j'avais vraiment un choix définitif à faire, c'est des auteurs que je ne mettrais pas sur la table de littérature érotique. Parce que ce n'est pas forcément ce que le lecteur de base qui a envie de lire la littérature érotique forcément va prendre.
Oui, d'accord. Pour terminer, est-ce que vous avez isolé dans votre classement, on va reparler un petit peu de l'organisation de votre rayon, est-ce que vous compartimentez, je ne sais pas, par des thèmes, Frank Spengler nous a fait une petite typologie en parlant de romans d'initiation, les romans de dépassement, est-ce qu'il y a des cloisonnements comme ça? Je pense à la littérature gay et lesbienne, est-ce qu'elle est à classer à part ou... ça me paraît un peu bizarre moi. Mais...
C'est très bien que vous m'en parliez, c'est vrai que c'est un débat que j'ai, souvent avec moi-même, parce que c'est moi qui m'occupe du rayon.
C'est déjà bien de l'avoir.
Donc c'est... Non, mais c'est vrai parce que je vois que la concurrence aussi a développé un rayon gay et lesbien. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec ça, cette idée de développer un rayon de littérature gay et lesbien. Moi c'est vrai que je suis contre cette idée de la segmentation des choix éditoriaux. Quand elle est linguistique, c'est normal, hein, on ne va pas mélanger effectivement la littérature traduite avec la littérature française. Enfin, c'est un avis personnel. Et notamment la semaine dernière, j'ai eu au téléphone les éditions KTM. C'est éditeur qui publie uniquement des littératures lesbiennes. Et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de mal à placer ses livres sur Marseille, parce que, chez moi, à la FNAC Marseille, parce qu'il n'y a pas de rayon gay-lesbien. Et elle me demandait pourquoi est-ce qu'on ne crée pas de rayon gay-lesbien. Et bon, je ne suis pas rentré dans le détail, hein, ce n'était pas le propos de l'appel. Et je lui ai quand même pris des titres. Hein, mais c'est vrai que c'est très difficile de... Qu'est-ce qu'on va mettre dans la littérature gay-lesbien, voilà, c'est ça que je... Enfin, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est forcément... des relations uniquement homosexuelles ou lesbiennes, à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas y mettre aussi les auteurs qui se revendiquent, en tout cas, d'une pratique homosexuelle, même si dans leur littérature, elle n'est pas toujours présente.
Je pense on va ghettoiser un petit peu.
Voilà, je peux penser à Genet, à Pasolini, à Guibert et à tant d'autres. Pour moi, c'est très réducteur. Mais maintenant, pourquoi pas, hein, je pose la question. C'est vrai que moi, si je devais trancher, ce serait plutôt non. Enfin, la littérature érotique...
Ça englobe tout,
et je ne vais pas mettre effectivement une étiquette pour identifier la littérature gay-lesbienne, même s'il y a une demande, hein, ça va de soi. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'acheter la littérature gay-lesbienne à la FNAC que chez son petit libraire. Hein.
Très bien. Eh bien, merci Nourdine.
Merci à vous, Ariane.
J'encourage les auditeurs à venir découvrir votre rayon érotique à la FNAC Marseille. C'est au Centre Bourse. En attendant, on écoute So Cold, Let's Get Wet.
your size,
like your attitude.
Let's get ready.
Colibri, Zoom.
Vous êtes calé sur les 3-8 à l'écoute de Colibri. On parle de littérature érotique et c'est l'heure du Zoom. Pour le Zoom, on accueille Peggy de la Réserve à Bulles qui vient nous parler de la BD érotique. Bonjour Peggy.
Bonjour.
Alors, la BD érotique, comment elle se porte ?
Alors, effectivement, la BD érotique se porte pas super bien, je trouve. Elle a une place très réduite dans l'édition. Il y a très peu d'éditeurs, de gros éditeurs qui continuent à faire de la BD érotique. C'était un genre qui était vraiment très fructueux dans les années 70-80. L'écho des savanes, Harakiri, des auteurs comme Sir Pieri, Manara, qui étaient vraiment très très productifs à l'époque. Il y avait vraiment des gros rayons BD érotiques dans les librairies. C'était vraiment un genre dans le genre à part entière et maintenant ça a vraiment disparu. Reste quelques survivants, mais des survivants de cette époque, c'est-à-dire Milo Manara qui est toujours édité chez Albin Michel, qui fait aujourd'hui une fresque sur la famille Borgia, donc qui est une famille mafieuse du XVIe siècle. Donc là, on est dans l'historique et érotique.
D'accord.
Donc ça, c'est ce qui fait de nouveau, on va dire. Après, les éditeurs continuent toujours à le rééditer parce que c'est quand même un maître de la BD érotique. Autant sur la narration que sur le dessin. Il a un dessin réaliste. Il s'est dessiné les corps, c'est vrai qu'il est reconnu pour ça, donc ça représente 80%
de la BD érotique.
De la BD érotique à lui tout seul. Donc il reste encore un peu des rééditions de Sir Pieri, donc de Druna, mais bon là c'est vraiment de la BD érotique un peu trash, vraiment dur quoi.
Ouais, c'est quasiment une pornographique. Hein.
Ouais, c'est vraiment différent de ce que fait Manara, même au niveau des dessins, c'est violent, alors que bon, Manara, il a quand même quelque chose d'assez sensuel, quoi, on va dire. Donc c'est vrai qu'on est loin de, la période fructueuse pardon, des années 70-80, et les éditeurs restent très timides sur ce genre. On peut quand même citer un éditeur donc, qui s'appelle Dynamite, et qui lui a consacré sa ligne éditoriale à la BD érotique, et continue à éditer quelques dessinateurs, quelques BD érotiques, mais il reste vraiment anecdotique dans le paysage de la BD aujourd'hui. Il y a quand même un petit peu de nouveautés. Les Impressions Nouvelles ont édité un récit autobiographique hautement érotique d'une dessinatrice qui s'appelle Aurelia Horita, donc qui a en fait raconté dans ce roman graphique ses ébats sexuels avec un dessinateur lui aussi connu, c'est Frédéric Boilet.
Elle a mis en scène
ses ébats sexuels avec ce dessinateur. C'était vraiment... Ça a reçu vraiment un accueil terrible du public.
Ah oui.
Tout d'abord parce que c'était une fille et que c'est une fille qui dessinait ses ébats sexuels, donc c'est quand même super nouveau.
Tout à fait.
Rare pour être précieux.
Remarqué,
voilà.
Ouais.
Et en plus, bon, c'est quand même un bouquin qui a eu beaucoup de com, beaucoup d'articles, et notamment il a été préfacé par Johann Svarr. Mmh. Dont on entend pas mal parler dans la BD. Et lui aussi, en fait, Svarr met pas mal d'érotisme dans ses BD, mais dans le contexte d'autobiographie ou de biographie. Il a fait une biographie de Passin où là, il a mis de l'érotisme. Mais il n'y a plus vraiment de BD où c'est purement érotique pour être érotique, quoi. Ça reste un prétexte, ça reste anecdotique dans l'histoire.
Et tu l'expliques comment ? Pourquoi ?
Je pense que c'est un changement, des tendances quoi. Il y a plus de place aussi dans les librairies. Il y a plus de rayons, donc plus de rayons dit moins de commandes et il y a pas de nouveau lectorat par rapport à ce lectorat des années 70-80 ouais. Qui s'est pas renouvelé. Je pense que ça aussi ça.
Ouais, toute une époque.
Ça joue, voilà. Il y a plus. C'est vrai qu'il y a une petite enquête qui avait été menée sur des Fnac parisiennes et il y en avait qu'une qui avait un réel rayon BD érotique identifié avec justement 80% de Manara. Quoi.
D'accord.
Donc il y a plus de place, donc c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Plus de place dans les librairies, moins d'éditions et pas de nouveau lectorat.
Et voilà, je pense que voilà, je voulais rebondir là-dessus. Je pense que c'est aussi ça en fait. Hein. C'est une question de lectorat. Le lectorat de l'Écho de Savane et de Rakiri aujourd'hui, bon, bah, il est cinquantenaire, hein. il est sûrement papa. Et je pense que c'est quelque chose qui ne recherche plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le lecteur plutôt jeune, je ne pense pas qu'effectivement il lise de la BD érotique dite classique. À la rigueur, justement, je voulais vous poser la question par rapport à ça sur le manga qui développe une littérature érotique qui peut être très très extrême. Et c'est vrai que nous, on se pose la question de savoir comment l'exposer cette littérature-là, parce que le manga japonais, en matière d'érotisme, voire même pornographique, ça peut aller très 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 loin.
Ça va très très loin, ouais.
Et je voulais vous poser la question de savoir si c'est quelque chose que vous vendiez, vous, dans votre librairie.
Alors nous, déjà, on n'a pas un énorme rayon manga, donc effectivement, ça restreint. Mais effectivement, c'est pas un genre qu'on vend beaucoup, sauf peut-être quelques auteurs comme Mario, qui sont des auteurs japonais mais très underground, enfin au niveau du dessin et des récits, ça on le vend. Mais sinon, des trucs comme Step Up Love Story ou des choses comme ça, nous, ça fait pas partie de notre ça fait pas partie de notre clientèle, hein, mais c'est pas une censure de notre part, enfin c'est pas par rapport à ça, mais effectivement dans les coutumes japonaises ça peut aller très loin, et je trouve qu'il y a souvent des ambiguïtés aussi par rapport à l'âge des filles.
Oui, absolument.
Il y a la jeune fille au camélia justement de Mario qui a vraiment prêté à polémique, et carrément l'éditeur qui l'a traduit en français a jamais donné l'âge de la fille en question, et effectivement sinon elle a 13 ans. Quoi.
Là on est dans des problématiques culturelles en fait.
Voilà.
On voit aussi que l'érotisme est très différent d'une culture à l'autre et pas du tout reçu et perçu de la même manière.
Ah oui, complètement, parce que moi je vois effectivement dans les mangas japonais qui évoquent cette littérature-là, ces BD graphiques ou le roman graphique pour citer tout à l'heure Fraisé Chocolat. Et c'est vrai que là, par exemple, la pratique du bondage dans les BD japonaises érotiques, c'est un truc classique. Alors que c'est vrai que la BD européenne classique, c'est quelque chose qu'on a rarement vu. Hein.
Attends, la pratique du...
Le bondage, c'est attacher en fait sa partenaire, voilà. Mais sur tout le corps en fait. Hein. Et c'est vrai que dans les BD japonaises, c'est quelque chose de très courant. Alors qu'on ne pourra jamais voir ça. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça dans la BD en lisant Manara ou les classiques des années 70. Hein.
Ah oui, d'accord.
Et je pense que ça, c'est très culturel, hein, cette pratique-là chez les Japonais. Hein. Il faudrait que nous, on voit pas ça. Ça n'existe pas. Alors dans les BD japonaises, c'est ultra présent.
D'accord. Oui, c'est intéressant. Peggy ?
Oui, je voudrais juste ajouter, je pense que dans les... Bon, pas en librairie spécialisée, mais dans les complexes multiculturels, enfin, on peut citer la FNAC, mais d'autres.
Oui, voilà.
Je pense qu'il y a une petite censure quand même de la BD par rapport à un autre genre, comme la littérature ou les DVD, parce qu'on voit vraiment... Enfin, on a l'image sous les yeux. Enfin, il y a accès à l'image directement.
Ah oui, c'est sûr.
Et ça pose un problème sur la place de la BD érotique dans les rayons, qu'on se poserait moins... Il y a moins de problèmes, puisqu'apparemment, vous avez des tables de présentation de littérature érotique. On ne pourrait pas imaginer, je pense, une table de présentation de BD érotique.
Non, c'est trop facilement accessible.
Voilà. Ça bouche un peu aussi le créneau quand même.
D'accord. Ouais.
Il y a quelques années de ça, la FNAC d'Avignon était confrontée à une association encore. Je ne sais plus,
je ne pourrais plus la citer. Aussi,
ouais. Elle avait eu gain de cause. Et effectivement, la FNAC était obligée de filmer tout, de sceller tous ses livres de BD érotique et de les mettre à hauteur pour que les enfants ne puissent pas y avoir accès.
D'accord, très bien. Eh bien, je vous remercie tous les deux. Merci Peggy et remercie Nourdine pour ces précisions.
Merci à toi, Ariane.
Avant de terminer l'émission par le coup de cœur du Colibri et quelques titres à découvrir, mais à ne pas laisser traîner, on écoute Ocean, chanson fantôme. Mes mots.
lancer hanté tes bras de fourmis en cloque, hanté ton dos de caresse mes notes, hanté ton cœur qui bat contre le temps à défaut de battre au creux du désastre mes mains.
Colibri, coup de cœur.
C'était Ocean, chanson fantôme, extrait de Don Juan. Vous écoutez Colibri sur Radio Grenouille. On termine ce numéro 4 consacré à la littérature érotique par le coup de cœur. Un coup de cœur décliné au pluriel, un triptyque érotique pourrait-on dire, qui sera, je l'espère, au goût de vos curiosités. Pour commencer, je vous propose un titre qui peut servir d'initiation à la littérature érotique. Il s'agit de Vénus Erotica, et il y a même une suite, Vénus Erotica 2. Et c'est écrit par Anaïs Nin. C'est un livre de poche à 3 euros. Alors Anaïs Nin, c'est, vous le savez sûrement, cette auteure franco-américaine qui tenait pendant les années folles à Louveciennes l'un des plus célèbres salons artistiques et littéraires. Y défilaient entre autres Miller, Artaud, le psychanalyste Otto Rank, plein de gens importants de l'époque. Et Vénus Erotica, c'est des nouvelles qu'elle a écrite en 1940 à la chaîne pour un prétendu mécène collectionneur, et elle les a surtout écrites par souci d'argent, elle l'explique dans sa préface. Alors certains trouvent l'écriture d'Anaïs Nin un peu gnangnan, je sais que c'est le cas de Frank Spengler qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, il m'en avait parlé. Bon, sans doute parce que c'est soft, Anaïs Nin est dans un érotisme, une sexualité positif, on va dire. Donc il n'y a rien de scabreux, il n'y a rien de traumatisant, mais il y a du désir, de la chair, de l'amour. Et personnellement, j'ai trouvé ça simplement et délicieusement écrit. Donc voilà, pour les novices, je conseille donc Anaïs Nin, Vénus Erotica et Erotica 2 en livre de poche. Deuxième volet de notre triptyque, je vous propose un classique, Histoire d'eau, de Pauline Réage, publié en 1954 chez l'éditeur Jean-Jacques Pauvert. On le trouve aujourd'hui en livre de poche et il coûte 6 euros. Alors Pauline Réage, c'est le pseudonyme de Dominique Horry, une intellectuelle de haut vol. Elle a notamment traduit Fitzgerald, elle a travaillé à la NRF, la Nouvelle Revue Française. Et Dominique Horry a écrit ce livre comme une lettre d'amour à Jean Paulhan, comme elle l'expliquera plus tard, en disant « Je n'étais pas jeune, je n'étais pas jolie, il me fallait trouver d'autres armes ». Tenue dans le secret pendant des années, l'identité de l'auteur a fait l'objet de nombreuses supputations. On a cru que c'était Paulhan lui-même qui avait écrit « Histoire d'eau », on a même soupçonné Malraux, Monterland, bref, que des hommes, alors que c'est bien une femme qui est à l'origine de ce récit d'une crudité et d'une violence surprenantes. L'histoire, c'est celle d'eau, alors O, c'est la lettre O, et c'est une jeune femme, libre et indépendante, qui est conduite par son amant dans un mystérieux château situé à Roissy. Dans ce château, on y dresse les femmes, et ainsi notre héroïne, O, y devient esclave de son plein gré. On la fouette, elle y souffre, et n'y connaît qu'un unique plaisir, celui d'appartenir à quelqu'un d'autre. Je sais, ça parle peut-être pas à tout le monde, c'est un petit peu spécial, mais l'écriture est vraiment fascinante. concise. En simplifiant, on parle d'histoire d'eau comme d'un roman érotique sadomaso. Moi, je pense que c'est quand même plus que ça. C'est le cri d'une personne qui veut, à tous les prix, appartenir à une autre. Pour les avertis donc, Histoire d'eau de Pauline Réage, en livre de poche. Et on termine avec une nouveauté. Dans un complet autre style, L'amour brut d'Éric Jourdan est sorti en août 2006 à la Musardine. C'est l'histoire d'un jeune lycéen orphelin, Tom, plus éveillé aux ébats amoureux qu'au cours d'anglais de Miss Marple. Le lecteur suit les pérégrinations érotiques de ce jeune étalon qui, au fil des années et des aventures, découvre la liberté dans la sexualité. Et oui, c'est un point important. Et il bascule dans une évidence déconcertante de l'hétérosexualité à l'homosexualité. Le style est accrocheur, la lecture est fluide, c'est une sorte d'hymne à la jeunesse et à la fraîcheur. Donc c'est plutôt pour les inconditionnels du corps masculin et de la jeunesse qui exultent, L'amour brut d'Éric Jourdan à la Musardine, et il coûte 17 euros. Voilà, Colibri, c'est fini. Merci à tous ceux qui ont participé à ce numéro et donné de leur personne pour nous et vous initier aux joies de la littérature érotique. Merci donc à Nourdine, merci à Franck et merci à Peggy. Merci aussi à Stéphane à la programmation musicale et à Seb à la technique. Avant de nous quitter, je vous rappelle que si vous n'avez rien eu le temps de noter, ce n'est pas grave, vous pouvez désormais récupérer toutes les infos de l'émission et des émissions précédentes en cliquant sur le site de la Grenouille, www.grenouille888.org, rubrique Colibri, ça s'écrit co/libri. Et pour faire parvenir des infos ou des commentaires aux volatiles, c'est aussi via le net, à l'adresse suivante, colibri-sur-grenouille@yahoo.fr. Cette fois-ci, c'est tout attaché, sans slash. On se retrouve le mois prochain, et même l'année prochaine, pour parler des polars et des romans noirs, les flics insomniaques, les crimes crapuleux, les frissons dans le dos au rythme d'une lecture haletante, c'est votre dada. Rendez-vous donc le troisième samedi du mois, même heure, même fréquence, mais sans Jean-Pierre. Ciao.
Je suis très heureux d'être sur Colibri Radio Grenouille.